Vous aimez de tourner avec moi dans le livre de Jonas au chapitre 3. Jonas au chapitre 3. Pendant que vous cherchez, bien, c'est bon de se rappeler que l'une des grandes leçons de l'échec de Jonas et du pardon que Dieu lui a accordé, c'est que Dieu peut continuer à utiliser ceux qui reviennent à lui. Tout comme Jonas, de nombreux croyants ont reçu une deuxième chance de faire ce pour quoi Dieu les avait appelés. Et heureusement que nous servons le Dieu de la seconde chance. Adam a péché dans le jardin et Dieu l'a couvert. Moïse a tué un homme et Dieu l'a quand même appelé à libérer son peuple. Malgré le manque de confiance du prophète Élie, qui avait fui la reine Jézabel, Dieu va lui parler, il va ensuite l'utiliser, entre autres, pour oindre Élisée, qui est appelé à le remplacer. L'apôtre Pierre a aussi renié Jésus, pourtant c'est lui que Dieu va utiliser pour annoncer le premier message évangélique le jour de la Pentecôte. Jean-Marc a quitté Paul et ses compagnons pour retourner en Pamphylie, et pourtant Dieu l'a utilisé pour écrire le deuxième évangile. Cela fait partie, frères et sœurs, de l'histoire de l'Église à travers les siècles. Beaucoup de chrétiens ont eu de nombreuses opportunités pour revenir à Dieu et le servir, et lorsque ce fut le cas, Dieu les a utilisés pour sa gloire. Une fois que Dieu a corrigé Jonas, il va l'amener à faire l'œuvre qu'il avait prévu d'accomplir à travers lui. Et le troisième chapitre de Jonas nous rappelle qu'un vrai réveil a un impact autant sur les individus que sur la culture. Quand les gens se convertissent à Jésus-Christ, quand il y a un réveil, leur vie change, non seulement leur vie change, mais aussi la société va changer, les valeurs de la société vont changer. Et c'est pour ça que je dis ce matin que quand il y a un vrai réveil, eh bien, ça a non seulement un impact sur les individus, mais parce que les individus ont été touchés par le Seigneur, parce qu'ils ont compris le message de l'Évangile, eh bien, ils vont en parler à d'autres, et ça va faire à un moment donné, c'est que c'est la culture qui va changer, c'est-à-dire le comportement des gens dans la société. Alors voilà, on parle des valeurs de la République, mais ce qui est important pour nous, c'est de suivre les valeurs de la parole de Dieu, les valeurs que Jésus nous a laissées, mais l'enseignement que le Seigneur nous donne. Puisque les valeurs de la République peuvent changer, mais la parole de Dieu reste la même, puisque la parole nous dit que Dieu est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Les valeurs de Dieu ne changent pas, et heureusement, parce que c'est réconfortant pour moi. Si Dieu ne change pas, bien, quand j'arrive au ciel, je suis convaincu qu'il ne changera pas d'idée, me dire, bien, j'ai pensé à toi, mais tu n'as pas toujours été correct, donc tu peux rester à l'extérieur de Dieu. Dieu dit que quand on accepte Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, eh bien, on fait partie de sa famille. Et dans Actes chapitre 3, verset 19, l'apôtre Paul dit, convertissez-vous et repentez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc, la repentance, elle est essentielle. Elle est essentielle à la conversion aussi. Ici, au verset 2, Dieu va révéler à Jonas. J'avais dit qu'on allait lire, non? Oui. Le temps file, mais on va le lire rapidement. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, à la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une grande, très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait, disait, encore 40 jours, et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pincent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leurs mauvaises voies. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Jusqu'ici, bien, c'est la lecture de ce que nous allons voir ensemble ce matin. Et on voit ici dans les versets 1 et 2, que Dieu révèle à Jonas ce qu'il attend de lui. Il dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y le message dont j'étais chargé. Notez ces 3 petits mots importants ici au verset 1. Une seconde fois. Une seconde fois. Jonas a eu une seconde chance. Le fait que Dieu ait donné une seconde chance à Jonas ne signifie pas que nous aurons toujours une seconde chance quand nous désobéissons, mais nous avons besoin d'entendre Cela parce que quelqu'un pourrait lire l'histoire de Jonas en disant « Peu importe que j'obéisse ou pas, je veux toujours une seconde chance. » Pas nécessairement, il ne faut pas abuser ni présumer de la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Il est vrai que Dieu accueille toujours les fils et les filles prodigues. Il est également vrai que la lumière est toujours allumée dans la maison du Père. Mais Jonas ne savait pas si et quand il sortait dans le vent, il sortirait du ventre du grand poisson, et encore moins ce qu'il attendait. Et ce qui est vraiment encourageant ici, c'est que malgré le fait que Jonas avait désobéi à l'ordre que le Seigneur lui avait donné, Dieu n'a pas annulé son appel. Le message de Dieu était et est « Va à Ninive et ne t'avise pas de tout ficher en l'air cette fois-ci. » Nous pourrions dire qu'il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle ici. La bonne nouvelle, c'est que Dieu n'a pas abandonné Jonas. Et la mauvaise nouvelle, elle est pour Jonas. C'est que Dieu veut toujours qu'il aille à Ninive. C'est vrai. Dieu veut toujours qu'il aille à Ninive. Nous pouvons apprendre plusieurs vérités importantes à partir de ceci. Dieu ne garde pas rancune. Il est le Dieu qui se ne lasse pas de pardonner, nous dit la parole, à tous ceux qui viennent à lui. Il a démontré sa grâce ici vis-à-vis de Jonas en renouvelant son appel. Et je rentrerai pas, on n'a pas le temps. Vous avez juste à penser au un des deux malfaiteurs sur la croix qui, malgré sa vie terrible, comme Ernest l'a dit, c'était pas les plus petits voleurs qui allaient sur la croix, les meilleurs ni les moins bons citoyens, c'était les pires. Et malgré tout, eh bien, le simple fait qu'il reconnu que Jésus était juste et que lui méritait ce qu'il avait, ce qu'il recevait, et qu'il a cru en la résurrection de Jésus, puisqu'il a dit « Quand tu reviendras, Jésus, pense à moi. » Et Jésus lui a dit « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Pas compliqué, hein, le message. Pas compliqué une prière de repentance, hein. Ce qui est le plus difficile, c'est de reconnaître qu'on a besoin de se repentir, n'est-ce pas? C'est ça qui est le plus difficile, hein. Et Jésus, n'a pas commencé à lui faire la liste de tous les péchés qu'il avait commis, il a simplement dit « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Frères et sœurs, ce qui est intéressant là-dedans, c'est pas une bonne personne qui est rentrée la première au paradis. C'est quelqu'un qui est un malfaiteur, un bandit, un renégat, rejeté de la société. Et pourquoi? Parce qu'il a confessé son péché à la face de tous ceux qui étaient à côté de Jésus. Dieu ne garde pas rancune, et gloire à Dieu pour ça, ça c'est la première vérité. Deuxième vérité, Dieu ne renonce pas pour autant à son plan. Ce n'est pas comme si Dieu avait dit, d'accord Jonas, je te comprends, tu ne peux pas aller à Ninive, tu préfères à Tarsis, alors va annoncer ma parole à Tarsis, puisque c'est là que tu allais de toute façon. Dieu ne fonctionne pas de cette façon, il ne négocie pas avec nous quand nous nous rebellons contre lui. Dieu donne une seconde chance à Jonas de faire ce qu'il devait faire la première fois. La troisième vérité, regardez, Dieu n'abandonne pas. Il ne se préoccupe davantage de l'ouvrier que du travail à faire. Si la principale préoccupation de Dieu, c'était les gens de Ninive, il aurait pu choisir quelqu'un d'autre que Jonas, mais il voulait aussi former Jonas. Et frères et sœurs, c'est important, le message y tombe bien, il va être très pratique ce matin, parce que on va avoir une semaine d'évangélisation, une semaine d'efforts d'évangélisation. Et le Seigneur, eh bien, c'est pas par hasard que les gens ont levé la main, c'est pas par hasard que les gens se sont inscrits, c'est pas par hasard que les gens vont participer à cette semaine, c'est parce que Dieu les a appelés. Vous êtes amen à ça? Oui. Dieu vous a appelés, vous êtes dans le plan parfait de Dieu, Dieu vous a appelés, vous avez répondu, gloire à Dieu pour cela. Pardon. Mais en même temps, c'est que Dieu veut nous former. Combien on a peur d'aller à l'extérieur. Je suis pasteur, je vous dis, je suis votre pasteur, et c'est pas évident. C'est pas évident, les premières fois, c'est les tripes, ça me serre un peu au niveau de l'estomac. Il y a quand même un combat spirituel, n'est-ce pas? Mais Dieu nous appelle à aller propager sa parole. Et ça fait partie, c'est aussi pour nous former. Alors, si jamais on est insulté, ça m'est jamais arrivé, les Belges, je vous ai déjà dit, sont super bien éduqués. Je n'ai jamais été insulté par les Belges. Mais en tout cas, si jamais on reçoit une insulte, on fera comme le Seigneur Jésus, qu'il n'a pas ouvert la bouche. On va entendre et on va prier pour eux, parce que ce n'est pas les gens qui nous insultent. C'est l'esprit qui est derrière ces gens-là, qui cherche à nous décourager pour qu'on retourne et qu'on ne puisse plus jamais proclamer l'Évangile. Dieu voulait non seulement, Dieu n'avait pas changé d'idée concernant Jonas, mais Dieu avait un plan pour Jonas, c'était aussi de le former à travers le ministère, à travers l'appel qu'il lui avait donné. Alors, dans un premier temps, il voulait amener Jonas à réaliser jusqu'à quel point son cœur était tortueux, et dans un deuxième temps, réaliser le grand amour qui se trouve dans le cœur de Dieu. Et frères et sœurs, peu importe où on en est rendu spirituellement, ce que le Seigneur veut nous montrer aussi. Quand je parle d'un cœur tortueux, quand vous lisez le restant de surtout le chapitre 4 de Jonas, il n'était pas content qu'il y ait eu un réveil à Ninive. Vous imaginez? Il n'était pas content, il était furieux. À alors qu'il aurait dû s'exclamer de joie. Une ville entière qui se donne au Seigneur. Et Dieu va devoir faire pousser un petit ricin pour lui montrer. Jonas, si ce n'était pas de ma grâce, tu serais perdu. Frères et sœurs, si ce n'était pas de la grâce de Dieu, nous serions perdus. Si la grâce de Dieu nous faisait défaut une seule seconde, nous serions tous perdus. Et Dieu, à travers l'appel qu'il nous donne, son plan, c'est surtout de nous rappeler combien il est un Dieu gracieux, combien on doit être gracieux vis-à-vis ceux que Dieu va placer sur notre chemin tout au long de cette semaine et tout au long de l'année, parce que ce n'est pas juste une semaine pour rendre témoignage à la personne de Jésus. Dieu n'avait pas besoin de Jonas, mais Jonas avait désespérément besoin de Dieu. Et nous pouvons ajouter que Dieu n'a pas besoin de nous, mais que nous avons besoin, désespérément besoin de Dieu. Dieu ne nous appelle pas à l'évangéliser parce qu'il a besoin de nous. Dieu, c'est un privilège qu'il nous fait de le représenter auprès de ceux qui ne le connaissent pas. Nous sommes des ambassadeurs, des ambassadrices de Jésus-Christ. Et là, c'est vraiment cette semaine, ça va être vraiment ça, parce qu'on va être à l'extérieur, on va se consacrer pendant une semaine à cela, et on va être des ambassadeurs, des ambassadrices de la personne de Jésus-Christ. Pour un grand nombre de chrétiens, frères et sœurs, il faut toute une vie pour servir cette vérité. Si vous réfléchissez, il y a plusieurs raisons qui ont amené Jonas à désobéir à Dieu. La première raison, c'est la peur. Jonas était au courant des atrocités, finalement, des Assyriens, pardon. Tous ceux qui vivaient à cette époque tremblaient juste à la pensée, juste à penser au degré de cruauté que les Assyriens pouvaient manifester. On l'avait vu la première semaine. Jonas aurait pu dire, moi, je ne vais pas en Ninive, parce que je ne resterai pas vivant plus que 10 minutes dans cette ville. Je serai déjà mort avant même d'avoir pu ouvrir la bouche. La deuxième raison, c'est la honte. Quand nous avons échoué de façon lamentable, très souvent, un profond sentiment de honte nous saisit et nous empêche de continuer. Jonas aurait été simplement trop gêné pour obéir au Seigneur parce qu'il ne partageait pas le plan de Dieu pour les gens de Ninive. Et la troisième raison, c'est la haine. Comme je viens de le dire, Jonas éprouvait pour les Ninivites. La haine que Jonas éprouvait pour tous les Ninivites est incroyable. Et comme nous verrons, Dieu voulant, la semaine prochaine, au chapitre 4, le temps qu'il avait passé dans le ventre du poisson n'avait pas changé son dégoût qu'il ressentait pour les Assyriens. Il préférait toujours les voir aller en enfer. Il est écrit au verset 3 que Jonas a obéi au Seigneur et qu'il est allé à Ninive. Et cela fera sortir un autre point important ici. Vous n'êtes pas obligé de toujours aimer ce que Dieu vous demande de faire, mais vous devez quand même le faire. Vous n'avez peut-être pas d'amour pour les gens de Ninive, mais vous devez quand même annoncer le message de Dieu. Cela nous amène à saisir un principe important, en tout cas pour moi ici. Le simple fait d'obéir à une petite chose qui nous est demandée rapporte toujours plus que de se limiter qu'à n'avoir que de bonnes intentions. Il nous arrive parfois de mettre de côté les petites choses à faire parce que nous aspirons à faire quelque chose de plus important plus tard. Combien de gens rêvent de ce qu'ils feront quand ils auront plus de temps ou plus d'argent, ou quand ils seront moins occupés, ou quand les enfants auront terminé leurs études, ou encore quand ils seront dans une autre église, ou quand ils obtiendront un meilleur travail. Nous avons tous de grands projets, nous sommes tous bercés par nos rêves. Il n'y a rien de mal à avoir de grands projets. Mais une petite obéissance, frères et sœurs, l'emporte à chaque fois sur les grands projets, sur les bonnes intentions. Nous pouvons tellement rêver à demain que nous risquons de négliger de faire les petites choses que nous devons faire aujourd'hui. Au verset 3, il est écrit que Jonas est parti pour Ninive, et chaque fois qu'il était, et cela à chaque pas qu'il faisait, il était confronté à ses préjugés, à son arrogance et à l'amour illimité de Dieu. Il devait sûrement marcher et dire, comment Dieu peut-il aimer un peuple aussi méchant, aussi mauvais? Comment Dieu peut-il aimer un peuple aussi méchant, aussi mauvais? Jonas se récalcitrant devait se demander comment Dieu pouvait aimer de tels gens. Comment était-ce possible? Les gens ne connaissaient rien du tout du Dieu de la Bible. Et ils adoraient les idoles. De plus, ils étaient sans limite dans leur cruauté, ils se livraient à la débauche. Sans limite. Ils vivaient dans l'immoralité, ils manifestaient une violence inimaginable. Jonas ne comprenait sûrement pas que malgré tout cela, Dieu voulait toujours sauver les gens qui habitaient dans cette ville. Ninive était un endroit où aucun Dieu raisonnable n'aurait été, frères et sœurs. Mais être raisonnable n'a rien à voir avec Dieu. Pensez à Jésus. Était-ce raisonnable pour Dieu de sacrifier Jésus-Christ? Était-ce raisonnable? C'est déjà une folie pour ceux qui se perdent. Une source de salut pour ceux qui acceptent ce message. Est-ce que c'était raisonnable? Car Dieu a tellement aimé le monde, et le mot grec, c'est car Dieu a aimé le monde de façon exagérée. Quel père sacrifierait son fils? Pas pour des bonnes personnes, pour des pécheurs. Dieu, on n'a pas évalué Dieu pour savoir s'il est raisonnable ou pas. Dieu sait exactement ce qu'il y a à faire depuis toute éternité. Il a un plan, il n'en déroge pas. Il n'y a personne qui peut bouleverser le plan de Dieu. Et Dieu a un plan pour chacun de vous ce matin. Dieu a un appel pour chacun de vous ce matin. Peut-être pas pour être pasteur, peut-être pas pour siéger sur un conseil, peut-être pas pour un responsable de ministère, mais faire exactement ce qu'il a demandé à Jonas de faire quand vous avez l'occasion de proclamer l'Évangile de Jésus-Christ. Comme celui qui était possédé, qui était possédé de plusieurs démons, qui a demandé à Jésus de le suivre, Jésus lui a donné le meilleur cours d'évangélisation possible. Vous savez ce qu'il lui a dit? Va dans ta ville, va retrouver ta famille, et va raconter ce que le Seigneur a fait pour toi. C'est ça l'évangélisation. Dieu n'a pas besoin de nos méthodes. La méthode, elle est toujours la même. C'est le Saint-Esprit qui touche les gens. C'est le Saint-Esprit qui parle au cœur des gens à travers la transformation que Dieu a opérée dans nos vies. Les premières personnes que je suis allé voir quand j'ai été sauvé, c'est ma famille. Ils m'ont tous rejeté, mais c'est pas grave. J'ai fait ce que le Seigneur m'avait demandé. Je suis allé leur rendre témoignage de ce que Christ avait fait dans ma vie. Et la seule réponse que j'ai eue, c'est qu'on m'a dit « Bon, t'es mieux avant. » Le Seigneur nous l'a dit, qu'on serait rejeté. On l'a rejeté, on va être rejeté. Il a été haï, on va être haï. Il a été persécuté, on va être persécuté. C'est des promesses qu'on n'aime pas, ça, mais c'est des promesses de Jésus-Christ. Hein. Ce n'est pas des promesses d'un pasteur. C'est des promesses que Jésus a faites à ses disciples. Hein. Et c'est des promesses que Dieu fait à ses enfants. Frères et sœurs, notre Dieu a un cœur plus grand que tous nos calculs, aussi raisonnables soient-ils. Il aime tous les êtres humains. Il a aussi à cœur ceux qui ne veulent rien savoir de lui. Il est écrit que Jonas se leva et alla à Ninive, qui se trouvait à 3 jours de marche. Les démographes calculent qu'il y avait plus ou moins 600 000 personnes qui habitaient cette ville à cette époque, ce qui en faisait une mégapole. Et arrivé dans cette ville païenne, Jonas se fit d'abord une journée de marche dans la ville en annonçant un message tout simple. En compte 40 jours, et Ninive est détruite. Eh bien, je ne vous inviterai pas... on va peut-être donner des petits cours de base cette semaine, mais il y a une chose qu'on ne vous demandera pas de prononcer, c'est de sortir dehors et dire encore 40 jours et Liège sera anéanti. Ça, c'est, il ne faut pas dire ça cette semaine, en tout cas. Pardon. C'est 7 mots en français et 4 mots en hébreu. Pour être honnête, je n'ai jamais prêché un message de 7 mots dans ma vie. J'ai plutôt tendance à me répéter et à répéter souvent les mêmes choses. Je ne pourrais jamais donc faire ce que Jonas a fait. 7 mots, encore 40 jours et Ninive est détruite. Un message aussi déprimant, n'est-ce pas? Assez déprimant. Il ne dit même pas « Repentez-vous, Dieu aime les gens de Ninive et il veut les sauver. » Ou « Ninive pour Jésus » et où dites « Oui au message de l'Évangile, gens de Ninive. » Son message annonce un jugement imminent, rien de plus. Si nous devions préparer une campagne d'évangélisation aujourd'hui pour Ninive, ce n'est pas comme ça qu'on agirait, frères et sœurs. Laissez-moi simplement vous amener à réfléchir. Nous commencerions par trouver un thème. Par exemple, Ninive pour Jésus. Nous engagerions une équipe expérimentée. Nous ferions imprimer des flyers. Nous ferions un guide sur les réseaux sociaux. Une annonce sur Facebook, sur Twitter. Nous formerions ensuite les participants. Nous imprimerions des t-shirts. Nous mettrions sur pied des équipes. Nous recruterions des conseillers. Nous imprimerions des documents pour les suivis. Nous organiserions des réunions de prière. Nous mettrions en place un système de traduction. Nous organiserions l'opération André qui s'inspire du récit de l'Évangile de Jean, où André amène son frère à Jésus, et nous leverions une levée de fonds pour financer le projet. Jonas, lui, est parti tout seul. Il s'est simplement rendu à Ninive, et il a annoncé son usage de jugement de 7 mois. Vous n'auriez jamais cru qu'il aurait eu une seule chance de réussir, n'est-ce pas? À propos, pensez-vous que Jonas s'est limité à prêcher... À propos, pourquoi pensez-vous que Jonas s'est limité à prêcher sur le jugement à venir? Parce qu'il n'aimait pas ces gens qui vivaient dans le péché. Il espérait que Ninive serait détruite au plus profond de lui, et cela aurait comblé son cœur de joie si cela est arrivé comme il l'avait annoncé dans son message. Et Jonas avait besoin d'apprendre à connaître la grâce de Dieu. Dieu n'a pas de préféré. Vous êtes amen à ça?
Amen.
Dieu n'aime pas plus les noirs que les blancs, les rouges que les jaunes. Dieu nous aime tous de façon égale. Quand nous commettons un péché, Dieu ne nous aime pas moins. Le cœur de Dieu est attristé. Quand nous suivons le Seigneur et on marche comme le Seigneur nous demande, le Seigneur ne nous aime pas plus, il se réjouit. Mais les sentiments du Seigneur, ils ne varient pas souvent comme nous, les nôtres, peuvent varier. Dieu n'a pas de préféré. Dieu a un plan, Dieu a un appel. Et il suit son appel. Pardon. Pensez ce que vous voulez, une chose est certaine, personne ne pourra jamais accuser Jonas d'être un prédicateur de la grâce à bon marché. Il était ce prédicateur impitoyable du jugement de Dieu et il se serait réjoui de voir Dieu 40 jours plus tard appliquer ce message de jugement qu'il venait d'annoncer. Quand vous prenez un peu de recul et que vous réfléchissez, cela ne semble pas être une façon d'évangéliser qui est non seulement populaire, mais qui va amener les gens à se repentir. C'était une vérité que Jonas lui-même ne comprenait pas. Il ne comprenait pas encore ce qu'était la grâce de Dieu. Ninive était mûre pour un réveil, mais personne ne le savait. Jonas ne le savait pas. Ninive ne le savait pas, mes frères et sœurs, Dieu le savait. Mes frères et sœurs, j'aimerais encourager ceux qui vont participer à cette campagne. Vous ne savez pas qui va accepter le Seigneur cette semaine à l'extérieur, qui va être réceptif au message que vous allez propager cette semaine, mais Dieu le sait. Et je suis prêt à dire, comme il a dit à l'apôtre Paul, il y a un nombre important de personnes qui appartiennent au Seigneur à l'extérieur et qui attendent que l'Évangile soit prêché, que l'Évangile soit annoncé. Je ne pense pas qu'il y avait quelque chose qui extérieurement laissait paraître que Ninive était un endroit où un puissant réveil spirituel surviendrait ce jour-là. Vu de l'extérieur, il semblait être une cause perdue. Voilà pourquoi le juste ne doit pas marcher par la vue, mais par la foi. Rappelez-vous les habitants de la ville, ils vivaient dans le péché, ils baignaient dans un paganisme incroyable. Mais voilà, Dieu travaillait dans les coulisses, frères et sœurs, en train de préparer le cœur des gens pour la visite de Jonas et pour son message. Est-ce que ce soir, ça pourrait être un sujet de prière qu'on puisse prier, au cas que je l'oublierais, qu'on prie que cette semaine, Dieu puisse préparer le cœur des gens pour notre visite et pour le message qu'on va annoncer sur la personne de Jésus-Christ. Marie-Paul, tu veux te lever? J'ai toujours négligé les flyers souvent. La distribution de flyers, je croyais que c'était une perte de temps dans les boîtes roulantes. Marie-Paul était rendue au bout du rouleau. Une sœur de l'église a déposé un flyer dans sa boîte roulette. Elle a annulé une autre soirée pour venir ici. Sa vie a complètement changé, sa vie est complètement bouleversée depuis ce temps-là. Elle est passée de la mort à la vie. Elle est née de nouveau. Et Véronique, tu veux te lever? Tout de suite après sa conversion, elle a invité quelqu'un qui vivait des choses extraordinaires, qui vivait des problèmes énormes. Et Véronique est avec nous depuis presque un an. Elle suit maintenant des cours de base qui peuvent l'amener à être baptisée. Voilà ce que les changements que le Seigneur Jésus-Christ opère dans la vie des gens lorsqu'il les touche dans sa grâce avec ce message de la croix qui est une folie pour ceux qui se perdent, mais une source de joie parce que c'est un salut qui se trouve en Jésus-Christ. Merci de vous asseoir. Frères et sœurs, j'espère qu'au plus profond de vous-même, vous avez encore l'impression que Dieu a un amour pour la ville de Liège, un amour pour les gens de notre quartier et qu'il veut atteindre ces gens-là à travers vous. Vous êtes l'instrument, vous êtes le moyen cette semaine que Dieu va utiliser. C'est extraordinaire, frères et sœurs. C'est extraordinaire. C'est magnifique. C'est une grâce que Dieu nous accorde de pouvoir nous utiliser. Remarquez ce qui est écrit au verset 5 ici rapidement. Après que Jonas eut prêché son message de sept mots, les gens de Ninive crurent à Dieu. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Gloire à Dieu. Il n'est pas écrit qu'ils crurent à Jonas. Il est écrit qu'ils crurent à Dieu, révélant ainsi la vraie nature de leur foi. Si vous doutez, regardez la dernière partie du verset 5. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint, verset 6, au roi de Ninive. Il se leva de son trône, c'est-à-dire, c'est un signe que son intention était sérieuse. Il ôta son manteau, c'est un signe d'humilité. Il se couvrit d'un sac, c'est un signe de deuil. Et il s'assit sur la cendre, c'est un signe de repentance. Et nous disons dans les versets 7 à 9 qu'il va appeler tous les habitants de la ville à prendre un temps de jeûne et de prière, car, comme il le dit si bien, qui sait, verset 9, qui sait si Dieu ne reviendra pas sur sa décision et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Le puissant roi de Ninive a obtenu ce qu'il a demandé, frères et sœurs. Il reconnaît qu'ils sont coupables, et il compte sur la miséricorde du Dieu Tout-Puissant. Il n'en est pas sûr, mais il espère que Dieu aura encore pitié de Ninive. Je suis certain qu'il n'avait jamais entendu prononcer les paroles de Jonas, mais que c'est comme s'il avait mémorisé Ésaïe 55, versets 6 et 7. Je vais vous le lire. où il est dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. » 11 et à ce Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, allons annoncer ce message de salut en Jésus-Christ, ce pardon que Dieu offre à quiconque le veut bien. Le roi de Ninive a agi comme s'il connaissait ce passage depuis toujours. Et ce qui va se vivre, frères et sœurs, va faire partie des plus grands réveils de l'histoire. Les gens de Ninive se repentirent. Pensez-y, la ville s'est repentie, nous dit le texte biblique. Toute une ville païenne a cru en Dieu. Nous n'avons jamais rien vu de tel ni entendu parler de quelque chose comme ça. George Whitefield n'a jamais rien vu de tel. John Wesley, D.L. Moody n'ont jamais connu ça non plus. Et rien de tel n'a jamais eu lieu au sein du ministère mondial de Billy Graham. C'est comme si nous disions que tout le monde à Tokyo croit maintenant en Dieu, que tout le monde à Singapour s'est repenti et que tout le monde à La Havane est devenu chrétien. Ou peut-être devrions-nous dire que toute la ville de Bruxelles s'est tournée vers Dieu. Ou encore que toute la ville de Namur s'est repentie. Ou bien que toute la ville de Liège s'est mise à genoux. Frère et sœur, c'est quelque chose de phénoménal, c'est difficile à croire. Et pourtant, c'est bien ce qui est arrivé ce jour-là dans la ville de Ninive. Un des plus grands réveils de l'histoire est survenu à cause d'une phrase de 7 mots prononcée par un prophète qui, premièrement, ne désirait même pas être à cet endroit. Deuxièmement, qui espérait de la destruction de la ville plutôt qu'à sa conversion. Et troisièmement, qui haïssait les gens à qui il a prêché. Était-ce raisonnable que Dieu utilise un homme comme ça? Mais voilà, c'est pas Jonas qui convertit, c'est pas moi qui convertis, c'est le Saint-Esprit qui convertit. Et Dieu avait déjà préparé les cœurs des habitants de Ninive, peu importe ce qui sortirait de la bouche de Jonas, à se détourner de leur péché et à se tourner vers Dieu. Quelles étaient les chances que ce réveil se produise? Sans Dieu, les chances étaient nulles. Pourquoi cette ville a-t-elle connu un réveil? Sûrement pas à cause de Jonas, il ne voulait même pas être là. Comment cela a-t-il pu arriver dans une ville païenne comme Ninive? À cause de 2 grands mots qui se trouvent au verset 4 du chapitre 1. Regardez, 2 mots. Le frère Jean-Claude Corbusier a prêché sur ce mot. Mais Dieu, Jonas ne voulait pas y aller, mais Dieu avait décidé. Jonas ne voulait pas prêcher, mais Dieu a décidé. Mais Dieu, frères et sœurs, vous ne savez jamais ce que Dieu va faire et vous ne savez jamais qui il va réussir à toucher. Pour Jonas, tous les habitants méritaient d'aller en enfer, mais pour Dieu, Ninive était mûre pour un réveil, frères et sœurs. Les habitants de la ville ne le savaient pas, Jonas ne le savait pas, mais Dieu le savait. Regardez la réponse gracieuse de Dieu au verset 10. Nous découvrons la fin de l'histoire au verset 10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et ne le fit pas. Frères et sœurs, une fois que les gens se sont détournés de leur mauvaise voie, Dieu fait toujours preuve de miséricorde. Il désirait exercer son jugement. C'est vrai qu'il désirait exercer son jugement sur la seule ville, ce que tous les habitants avaient pleinement mérité, mais tout en sachant aussi qu'il leur pardonnerait volontiers une fois qu'ils se tourneraient vers lui. Permettez-moi de souligner une fois de plus quelque chose de très important ici. Personne n'aurait pu prévoir à l'avance ce qui surviendrait à Ninive. 3 jours avant que Jonas arrive à Ninive, les gens de Ninive se vautraient dans le péché et vivaient loin de Dieu, parce que c'était là leur habitude de vie. Et Dieu voulait changer leur habitude de vie pour être capable de les amener à changer la culture dans laquelle ils vivaient. Lorsque je dis que deux jours avant l'arrivée de Jonas, c'était la même chose. Un jour avant l'arrivée de Jonas, personne n'avait la moindre idée de ce qui allait se passer. Le jour même où le roi s'est réveillé dans son palais, prêt à faire tout ce qui était prévu sur son agenda pour la journée, ne sachant pas qu'avant la fin de la journée, il ne savait pas qu'avant la fin de la journée, il se couvrirait d'un sac, s'assirait sur la cendre et appellerait son peuple à prier et à se repentir. Frères et sœurs, on a un Dieu qui connaît tout d'avance. Il sait ce qui va se passer tout au long de cette semaine. Il sait que Dieu va placer, le diable va placer des gens pour nous décourager. Il y a des gens, des fois, qui me disent, écoute, j'ai distribué des flyers. C'est après la 39e porte, la personne a été intéressée à m'entendre. J'étais découragé. C'est la 39e porte. Eh bien, c'est encourageant pour moi. Parce qu'il fallait faire les 38 premières pour être capable de les conduire à la 39. C'est encourageant, ça, hein? Oui, comment est-ce qu'on peut voir ça, hein? Il y a une sœur ici, là, qui est ici ce matin. C'était la première fois qu'elle faisait ça avec moi. Le matin, elle l'a fait. Elle a dit, je sais pas pourquoi on fait ça, on perd notre temps. Eh bien, Dieu l'a pris au mot. C'était la première fois qu'elle en faisait. Dieu l'a pris au mot. Parce que l'après-midi, une porte s'est ouverte, on est entré. La personne était mûre pour accepter le Seigneur. Et pour être sûr que ce n'était pas les sentiments, j'ai dit, explique-moi ce que je viens de te faire, explique-moi ce qu'on vient de te dire. Et il m'a parlé de la repentance, il m'a parlé qu'il était pécheur, il avait tellement bien compris le message. Il est déjà venu ici, c'est notre frère Edmond. Et vous savez ce qui est arrivé, je suis vraiment triste. Sa fille, elle était indifférente à ce qui arrivait à son père, qui vivait tout seul dans une maison. Et quand elle a su qu'elle s'est convertie, elle dit, « Papa, si tu retournes à l'église, je te place dans une maison de repos. » Il a plus de 80 ans, ce bonhomme-là. À plus de 80 ans, il a entendu parler de la grâce de Dieu. Il était mûr. Il était prêt à accueillir. On n'a aucun crédit pour ça. Il était mûr. Dieu savait. Moi, je ne le savais pas. La personne qui était avec moi ne le savait pas. Mais Dieu savait que cette personne-là, elle était mûre. Il y a des gens qui sont mûrs dans cette ville pour entendre non seulement l'Évangile, mais pour recevoir la personne de Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Dites Amen à ça. Certains se demandent en terminant peut-être si cet événement est un fait historique. Ce que nous pouvons dire, c'est que premièrement, le chapitre 3, elle le présente certainement comme étant un fait historique à prendre au sérieux. Et deuxièmement, Jésus a confirmé plus tard que c'était bien le cas. Rappelez-vous ces paroles dans Luc chapitre 11, verset 32. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a plus ici que Jonas. Et lorsque Dieu envoya Jonas à Ninive, c'était le moment pour Dieu et ils ont répondu. C'était le moment pour les gens de Ninive et ils ont répondu. Et je crois que nous retrouverons beaucoup de gens de Ninive au paradis. Nous pourrions nous poser la même question pour notre époque. Quel est le futur de l'Europe? Quel est le futur de la Belgique? Combien de temps nous reste-t-il? Parfois, nous regardons l'érosion morale autour de nous et nous pensons que le jugement de Dieu n'est pas loin. Peut-être sommes-nous proches d'un jugement en ce moment et que nous ne le réalisons même pas, frères et sœurs. Cependant, cette étude de Jonas, chapitre 3, devrait nous encourager à penser aussi autrement. Nous sommes peut-être plus proches d'un grand réveil que nous pouvons le penser. Dites Amen à ça.
Amen.
J'espère que vous le souhaitez de tout votre cœur. Moi, j'habite sur une très mauvaise rue parce qu'il y a un cortège de corbillards qui passe à chaque jour pour se rendre au funérarium, au cimetière. Et à chaque fois, ça flash dans ma tête. Il est où, aujourd'hui? Elle est où, elle, aujourd'hui? Est-ce qu'on se préoccupe de l'âme des gens? Est-ce qu'on se préoccupe de savoir où les gens vont passer l'éternité? Nous ne pouvons pas regarder vers le passé et nous concentrer sur ce que les autres ont fait pour Christ. Nous ne pouvons pas vivre non plus pour le futur en pensant ce que nos enfants, ce que les enfants de notre époque pourront faire dans 30 ans. La seule génération à laquelle nous devrions nous intéresser parce que nous pouvons l'atteindre, c'est la nôtre. Frères et sœurs, comme la parabole des trois serviteurs dans Matthieu 25, 14, 30, nous aurons des comptes à rendre à Dieu de ce que nous aurons fait et pas fait avec les opportunités que Dieu nous a données. Avons-nous cessé de croire que Dieu peut atteindre ce qui nous paraît inaccessible? Avons-nous cessé de croire que Dieu peut réaliser ce qui nous semble impossible? Lorsque nous regardons autour de nous, que nous voyons dans quelles conditions se trouve le monde, est-ce que nous nous disons, c'est comme Ninive, c'est sans espoir, c'est perdu d'avance, les gens sont trop loin dans leur péché? Ou bien nous nous disons nous-mêmes qu'ils tirent leur plein, donc à ce qu'ils méritent? Frères et sœurs, Dieu aime Ninive. Frères et sœurs, Dieu aime Liège. Frères et sœurs, Dieu aime la Belgique. Frères et sœurs, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus peut encore toucher ce qui nous semble intouchable. Jésus peut encore atteindre ce qui nous semble inaccessible aujourd'hui. Et nous savons que Jésus veut sauver Ninive. Mais pour y arriver, nous devons changer notre façon de penser. Est-ce que Dieu pouvait changer la façon de penser de Jonas vis-à-vis de tous ces gens qui sont perdus? On va le voir la semaine prochaine au verset 4. Bien sûr! Qu'il a utilisé les moyens. Frères et sœurs, Jésus peut encore toucher ce qui est intouchable aujourd'hui, ce qui nous paraît être intouchable. Et Jésus peut encore atteindre ce qui nous semble inaccessible. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y croyez? Frères et sœurs, quelles sont nos priorités aujourd'hui dans nos vies? Est-ce que le Seigneur passe avant toute chose? Est-ce que les œuvres du Seigneur passent avant toute chose? C'est quelque chose qu'on doit se poser comme question. C'est une question importante pour un chrétien qui est censé vivre pour les choses célestes. Jésus a dit, quand je suis sur la terre, je suis la lumière du monde, et quand je serai monté, vous serez la lumière du monde. Est-ce qu'on est en... Est-ce que c'est ce qu'on fait aujourd'hui? On éclaire les gens autour de nous. Frères et sœurs, c'est Dieu qui va parler à travers votre bouche. Ceux qui sont invités, qui viennent cette semaine, c'est Dieu qui va parler à travers votre bouche. Et c'est Dieu qui va toucher le cœur des gens. Parce que c'est lui, par son esprit, qui convertit. Mais rappelez-vous une chose. Dieu aime autant les gens de Ninive, les gens de Liège, qu'il vous aime. Vous êtes amen à ça? Ça, c'est vraiment important. Et rappelez-vous, même pour ceux qui sont dans l'Église, qui sont nés dans l'Église, c'est une faveur incroyable que Dieu vous a donnée, que dès le début, dans le berceau, vous avez entendu parler de l'Évangile de Jésus-Christ. Et pour ceux qui sont à l'extérieur, vous voyez, qui viennent de l'extérieur, vous voyez les changements que Dieu a opérés dans votre vie, eh bien, allez partager cette bonne nouvelle. Partagez la transformation que Jésus a opérée dans votre vie. Parce que vous marchez comme il vous demande de marcher. Dieu est un Dieu merveilleux. Dieu sait ce qui va se passer dans votre vie cette semaine. Dieu sait ce qui va se passer tout au long de l'année dans votre vie. Et Dieu a un plan pour vous. Il suffit d'y croire. Pardon, en terminant, le général William Booth, le fondateur de l'armée du salut, vous savez sur quelle base que l'armée du salut est partie, puis qu'à bout de 4 ans, 4 à 5 ans, il s'est retrouvé dans le plus menant pays. Il a lu la Bible, et tout ce qu'il donnait à ses soldats, à ses officiers, c'était « Les promesses de Dieu sont certaines, il suffit d'y croire. » Les promesses de Dieu sont certaines, il suffit d'y croire. Et à travers ça, ça a fouetté ses hommes, qui vivaient dans des valises, qui étaient dans une ville une semaine, qui étaient dans une ville une autre, ville un mois. Les promesses de Dieu sont certaines, il suffit d'y croire. Est-ce que vous croyez aux promesses de Dieu, frères et sœurs? Est-ce que vous croyez qu'elles sont certaines, qu'elles sont sûres? Alors celui qui a la foi, il vit en fonction des promesses qui sont dans la parole. Et s'il croit que ses promesses sont certaines, il va vivre en fonction de ses promesses-là. Dieu est encore amen à ça.
Amen.
Ouais. Je ne suis pas supérieur à vous. Dieu a un travail incroyable à faire encore dans ma vie. Dieu a encore incroyable à faire dans ma vie pour me donner plus de compassion pour les âmes perdues, pour me donner encore un amour plus grand pour mes frères et sœurs en Christ, pour me donner un amour encore plus grand pour les gens qui sont à l'extérieur. Il y a un travail incroyable à faire dans ma vie. Je ne sais pas quel est le degré de travail qu'il a à faire dans votre vie, mais ce qu'il veut, en tout cas, et on l'a chanté plusieurs fois ce matin, c'est qu'il veut que notre cœur lui appartienne entièrement. Il veut régner dans notre vie. Frères et sœurs, non seulement les morts, mais les ressuscités. On sait le message qu'on doit proclamer. Lisez le livre des Actes. Les pharisiens n'étaient pas fâchés parce que les apôtres annonçaient que Jésus était crucifié. Ça, vous pouvez l'annoncer, ça ne dérangera pas personne. Mais annoncer que Jésus-Christ est ressuscité, ça va ébranler le tréfonds de l'enfer parce que le diable ne veut pas savoir qu'il a perdu le pouvoir sur la mort. Il ne veut pas que les gens le sachent. Ouais, Jésus-Christ est ressuscité, frères et sœurs. La mort, ce n'est pas la fin de tout pour vous, c'est le début d'une nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Et c'est cette vie qui nous attend en Jésus-Christ. Et alors, en attendant, peut-être qu'il va revenir bientôt. En attendant, eh bien, soyons debout pour proclamer cette bonne nouvelle. Et marchons en nouveauté de vie de ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ.